sélectionner des gens dont on estime qu'ils ont des capacités, je veux dire, de transmission de pensée. C'est tout à fait exact. Il n'y a rien de... C'est vrai. Alors ça, c'est pas trop divulgué, mais c'est exact. Et c'est d'ailleurs paru dans une revue scientifique qui s'appelle Rendez-vous. Et qui est une revue qui, à l'époque, n'était destinée qu'à des prix Nobel de physique ou à des personnes qui étaient jugées dignes de la recevoir. Et toutes ces expériences-là sont racontées. On a eu le même problème avec les sous-marins nucléaires. Quand on est à 100 mètres de fond, impossibilité de communiquer avec l'extérieur, sauf à lâcher une balise. Pas de balise. Comment fait-on? Il y a la guerre, l'autre il est à 250 mètres au pôle nord sous la glace, et il faut lui dire, dis donc, il faut lâcher des trucs. Donc on a sélectionné des candidats, en espérant qu'ils aient des capacités de transmission de pensée, ça peut paraître con, et on les a drogués avec des dérivés de la psychédélique, pensant que ces drogues étaient tout à fait capables d'amplifier ces phénomènes. Donc il y a un gros domaine à explorer.
Ah. Les sous-marins russes qu'on a retrouvés au fond, ils étaient dans cet état-là aussi?
Ah ça, je sais pas s'ils étaient des bons transmetteurs de pensée, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu crois qu'on commence?
Moi, je sais pas. Il est 18h05, 6h05, oui, ben on va commencer. Je sais pas, on prend le micro ou pas? Peut-être pas. C'est peut-être pas nécessaire. Hein. Bien, merci d'être là. Alors, ce soir, on a droit à une conférence sur l'alchimie, mythe et réalité, par Christian Montesinos. Alors, Christian, tu as une formation de chimiste.
Oui.
Même si tu te décris tout à l'heure, tu m'as expliqué que tu étais un littéraire qui a découvert que finalement les sciences, ça pouvait être intéressant et que tu arrivais à t'y retrouver. Voilà. Tu as un peu quand même la double casquette. Tu te sens à l'aise autant avec une pensée scientifique qu'avec une pensée littéraire. Donc tu ne oui.
Ça c'est toi qui le dis, Carole.
C'est toi qui a dit tout à l'heure que tu étais un littéraire.
Oui, je suis un littéraire qui a découvert dans la science.
Qui a découvert les sciences en faisant des études.
Absolument. Voilà.
Et depuis quelques années, tu travailles beaucoup sur éléments de mythologie sacrée 12e et 13e siècle, dictionnaire raisonné de l'alchimie et des alchimistes. Tu nous parles pas mal de travaux de recherche que tu es en train de faire. Excusez-moi, je vais arrêter ça. Donc tu vas puiser les informations et tu as une démarche vraiment d'historien par rapport à tu vas nous expliquer un peu ton travail. Et bon, ça me fait plaisir en tous les cas que tu puisses venir présenter cette conférence ici. Moi, j'ai déjà entendu quelques fois, en particulier par rapport à l'image que l'on peut avoir de l'alchimie. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Est-ce que c'est de la magie? Est-ce qu'il y a des gens qui en font encore? Est-ce qu'on raconte... est-ce qu'il n'y a pas une caricature de l'alchimie que l'on retrouve dans certaines formes de littérature? Écoute, je te laisse parler de ton travail sur l'alchimie.
Bon, on va essayer de... L'alchimie, c'est un sujet extrêmement vaste et puis dont on a du mal à cerner un petit peu son étendue. Alors, pour un tas de raisons. Parce que d'abord, il y a quand même à peu près plus de 100 000 ouvrages qui ont été écrits sur l'alchimie. Des ouvrages d'alchimie ou des petits opuscules, et ça sur une période qui va à peu de choses près de la Grèce, de la ville d'Alexandrie au 4e siècle avant Jésus-Christ, on va dire jusqu'à la fin du 20e siècle. Donc ça fait quand même une paire d'ouvrages. Et on a des ouvrages qui sont extrêmement différents. Les uns traitent plutôt de médecine, les autres traitent de l'art des teintures, les autres traitent de l'art de faire de l'or. Bref, on a quand même, je dirais, plutôt une espèce de vaste système de pensée, vaste système philosophico-scientifique qui agite l'humanité depuis à peu près, on va dire, 2500 ans. Si on regarde d'un point de vue historique, si je puis dire, quand est-ce que l'alchimie telle qu'on la connaît aujourd'hui existe, eh bien, il faudrait remonter à l'Égypte antique. Parce qu'il se trouve que les Égyptiens, dans l'Antiquité, les prêtres égyptiens avaient un monopole, qui était le monopole de décorer les statues. Elles étaient entièrement peintes, et notamment de celui de fabriquer de l'or. Seulement, chez les Égyptiens, l'or a un mot, et ça veut dire chesbet. Et pour eux, chesbet, c'est pas forcément l'or, vous connaissez, hein, l'or métallique, l'or monétaire, c'est tout ce qui brille. Et donc, ils vont s'efforcer de rechercher par tous les moyens possibles de trouver des substituts à cet or métallique pour obtenir des choses qui lui ressemblent. Donc, ils vont écrire des petits bouquins là-dessus et qu'on va retrouver dans la ville d'Alexandrie. Et à la ville d'Alexandrie, on a un courant qui va se faire, d'une part entre des mystiques juifs, puisque la ville d'Alexandrie a une grosse colonie juive. Il y a à peu près 100 000 juifs qui vivent à Alexandrie, hein, Alexandrie du 2e siècle après Jésus-Christ. Il y a également eu toute l'imprégnation grecque qui s'est faite, plus évidemment, je dirais, les échanges avec Rome, plus les apports babyloniens et assyriens rapportés par les juifs. Bref, on a ce que j'appelle un bouillon de culture au sens vrai, tout à fait extraordinaire. Et là, on va avoir toute une littérature, avec déjà des divergences. Les premiers sont des gens qui voient dans l'alchimie des processus mystiques, qui vont donc se rattacher, je dirais, à l'alchimie spirituelle des premiers Égyptiens, et d'autres vont se tourner vers une alchimie plus matérielle, qui est celle qu'on va appeler l'art de faire des teintures. Alors, c'est des expressions qu'on retrouve dans l'alchimie, on trouve les mots l'art des teintures, il réussit une teinture. En fait, est-ce qu'il faut vraiment fabriquer de l'or et est-ce qu'on a réussi à fabriquer de l'or de façon chimique? Moi, je ne répondrai pas à cette question. Il y a eu des essais, chacun aura sa conviction. Vous savez, l'alchimie, c'est un petit peu comme la religion, hein, c'est une question de foi. Vous savez, les gens, ils ont la foi, ils savent que ça existe, d'autres, ils n'ont pas la foi, ce sont des athées. Alors moi, je ne suis pas un athée, je n'ai pas la foi, je dirais que je suis un curieux, je regarde ça plutôt comme un historien ou comme quelqu'un qui se gratte la tête en disant si on en a tant parlé, il y a peut-être quand même du vrai là-dedans. Alors, dans l'histoire de l'alchimie, elle est tellement vaste, moi je voudrais vous parler de quelques auteurs, parce que normalement il y a celui-là, il y a parmi vous des auteurs, je suppose. Eh bien, c'est que les auteurs de l'alchimie, ce sont tous des pseudo-auteurs, ou presque, avec des exemples qui sont très fameux. Le premier, c'est le fameux Nicolas Flamel. Tout le monde a entendu parler de Flamel. Ah oui, il habitait, donc il avait une petite échoppe. Il était d'ailleurs libraire juré, du côté de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie à Paris. Si vous connaissez Paris, vous allez voir la tour Saint-Jacques, c'est ce qui reste de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Et là, Nicolas Flamel, soi-disant, il aurait rencontré un juif qui s'appelait Abraham le Juif, qui lui aurait apporté un vieux bouquin, et il dit qu'il était fait d'écorce déliée, tout en bouleau, avec de belles enluminures. Et il n'y comprend rien. Et il raconte qu'il va partir en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle avec quelqu'un qui s'appelle Maître Canchès. En fait, c'est une mauvaise traduction, il fallait lire Maître Canchès. C'était une allusion à la coquille, la conque, tout simplement, donc celle de l'initiation. Mais est-ce que Flamel a réellement existé? Est-ce qu'il a réellement fait de l'or? C'est une toute autre affaire, parce que le seul livre, on connaît deux livres de lui. Le premier, ça s'appelle « Le livre des figures hiéroglyphiques ». Seulement, il est paru en 1612, et Flamel est mort en 1417, deux siècles après. Ouais, il fait beaucoup pour quelqu'un qui... Hein. Et en fait, ce livre, on sait que ce n'est pas Flamel qui l'a écrit, c'est quelqu'un qui s'appelle Arnaud, Pierre Arnaud de la Chevalerie. Et ça, Pierre Arnaud de la Chevalerie, c'est un pseudonyme, parce qu'il a un autre nom. Il s'appelle Nicolas Béroald de Verville. Et il a en fait un vrai nom qui s'appelle Pierre Gouard. Bref, il utilise toute, je dirais, la mythologie alchimique qui existe déjà au début du XVIIe siècle. Il utilise un personnage dont on pense qu'il avait découvert l'or, la manière de faire de l'or, et il fait un bouquin. Et ce bouquin, on va l'attribuer à Nicolas Flamel, mais il n'y a rien de plus faux. Il va écrire un deuxième livre. C'est également un livre apocryphe. Il s'appelle « Le grand éclaircissement de la pierre philosophale ». Quand on lit ce bouquin, on voit bien que ce n'était pas un grand auteur ni un grand philosophe qui l'avait fait. Mais sans aucun doute, un habile faussaire qui récupère le nom de Nicolas Flamel et puis qui dit « ça va peut-être se vendre ». Parce qu'à cette époque-là, il y a quand même beaucoup d'amateurs. Deuxième exemple, le nommé Basile Valentin. Je crois que vous avez peut-être entendu parler de Basile Valentin, non? Alors, il était soi-disant moine à Erfurt. Et puis, il aurait évidemment découvert le secret de fer de l'or. Alors, il va laisser des livres fameux. Il y en a un qui s'appelle « Le char de triomphe de l'antimoine »,« Cursus triomphalis antimonia ». Il faut dire qu'on vient de découvrir les propriétés de l'antimoine. L'antimoine, c'est un métal assez proche de l'arsenic, mais moins toxique. Et on donne d'ailleurs le nom de ce métal, antimoine, soi-disant, parce que Basile Valentin aurait fait un essai sur les moines de son monastère, et les moines en seraient morts. C'est une vaste blague parce que d'abord le jeu de mots est intraduisible en allemand. Basile Valentin était soi-disant de langue allemande. Et puis ensuite, c'est une petite allusion en fait au fait que dans les monastères, on avait des cochons. Et on avait essayé un traitement thérapeutique sur des cochons et les cochons en étaient morts. Mais comme on disait que les moines étaient gras comme des cochons, on en a conclu que le pseudo Basile Valentin avait fait mourir ses confrères. En fait, aujourd'hui, on sait que tous les ouvrages attribués à Basile Valentin ne sont pas de Basile Valentin. Ce sont des auteurs anonymes. Et ils ont repris un nom. Et puis, le dernier auteur en date, vous le connaissez peut-être tous, c'est Fulcanelli. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fulcanelli. Alors, Fulcanelli, c'est l'auteur du Mystère des cathédrales, c'est l'auteur des Demeures philosophales, et c'est en 1923 qu'un éditeur sort ce bouquin. Et on va se poser la question de savoir qui est le véritable auteur. Qui se cache le pseudonyme de Fulcanelli? Alors, tous ces noms-là, si on regarde bien, Nicolas Flamel, Fulcanelli, Basile Valentin, ce sont tous des noms qui cachent des symboles. Pour le premier, Nicolas Flamel, Nicolas, ça veut dire le vainqueur. Et Flamel, c'est les flammes, c'est le vainqueur du fourneau, le vainqueur des flammes. Et on voit déjà que dans le nom, il y a déjà des petites choses symboliques. Basile Valentin, ça veut dire roi puissant, Basileus Valens, puisque ça vient du grec. Roi puissant. Quant à Fulcanelli, on peut y trouver aussi bien l'art de Vulcain que l'art des flammes. Et Fulcanelli, il va falloir attendre la fin du XXe siècle pour qu'enfin le voile soit levé sur son identité. Alors on va penser que c'était quelqu'un qui s'appelait Cancelier, autre auteur alchimique assez connu. De fait, rien du tout, c'est simplement un libraire qui s'appelle Pierre Dujols, qui avait récupéré une librairie, la librairie du Merveilleux à Paris, qu'il avait racheté à quelqu'un qui s'appelait Chamuel, et il trouve un tas de bouquins. Et dans les bouquins qu'il avait dans le stock, il trouve un vieux livre qui s'appelait « Explications très curieuses des figures hiéroglyphiques qui sont au portail de l'église métropolitaine de Paris ». C'est le titre complet que je vous ai donné là. Et il a été écrit par quelqu'un qui s'appelait « Sieur Gobineau de Montluçon, gentilhomme charcot ». Et ce sieur Gobineau-Montluçon, en fait, s'était rendu compte que si on regardait à Notre-Dame de Paris, il y avait un tas de symboles extrêmement curieux. Il dit « ce sont des symboles alchimiques ». Et il jette ça sur le papier, il fait un petit opuscule d'une trentaine de pages. Dujols récupère l'opuscule, le grossit, s'entoure de quelques avis, dont Cancelier, et on sort ce bouquin, « Le mystère des cathédrales », qui n'est pas de Fulcanelli. Alors j'en conclurai que déjà, même dans les auteurs, il y a une espèce de mythologie. Et je dirais que l'alchimie, c'est quelque chose qui est un petit peu mythologique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce que le mythe a trois fonctions. Le mythe raconte, le mythe éclaire et le mythe explique. Et là, on est vraiment dans quelque chose de mythologique. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, depuis tout temps, ont pensé que l'homme était capable de modifier la matière. Et notamment, pourquoi pas, de faire de l'or en prenant du mercure et du soufre. Et leur idée, elle est très simple. Elle est reprise des Grecs et reprise également des Égyptiens. Le mercure est quelque chose de dense, quelque chose de lourd, quelque chose de brillant, et c'est un métal. Le soufre est quelque chose de un peu plus dur, notamment quand il est en cristaux, mais surtout qui a la couleur du soleil. Ils se disent, si je peux mélanger du soufre et du mercure, je ferai peut-être de l'or. Remarquez, ce n'est pas idiot. Non pas que ça se passe, mais dans leur raisonnement, c'est pas ça. Puisque quand on fait les premiers travaux de métallurgie, là, croyez-moi que quand vous prenez un oxyde de cuivre pour le purifier, pour tirer du cuivre, et puis qu'ensuite vous mélangez de l'étain, vous obtenez à leur sens un autre métal différent, qu'on appelle le laiton, qu'on va appeler l'auricalque. Donc pour eux, c'est pas une sottise. Mais à partir de ces faits, je dirais, établis, du point de vue historique, bien va se bâtir toute une mythologie avec des auteurs. Un autre auteur, Irénée Philalète, si ça vous dit quelque chose. Alors Irénée Philalète, il écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « L'entrée ouverte au palais fermé du roi ». Eh bien, ce fil à lettres, on n'a jamais su qui c'était. On se bat. Les uns pensent que c'est un pseudonyme d'un nommé Eugenius Philalet. D'autres pensent qu'il s'agit d'un Anglais, Thomas Vaughan. Alors pourquoi tous ces auteurs écrivent pour se cacher derrière des pseudonymes? Là, il y a une vraie question, parce qu'un auteur, normalement, il est content de savoir que c'est lui qui a écrit. Donc on a des gens qui ne recherchent pas la notoriété. Et on a des gens qui ne cherchent ni la gloire ni l'argent. Et ils diffusent des idées. Et là, je dirais, on est en plein dans le système mythologique. On écrit parce qu'on est dans un courant de pensée et parce qu'on veut s'inscrire dedans et on veut révéler des mystères. Alors, ces mystères, quels sont-ils? Est-ce qu'il y a vraiment des mystères de la chimie? Ça, c'est tout à fait autre chose. Il y en a peut-être des mystères de la chimie. Et les mystères, ils sont plutôt à chercher dans ce qu'on appellera l'alchimie spirituelle. Et dans l'alchimie spirituelle... On pense que, et d'ailleurs c'est ce qui arrive souvent dans les histoires d'alchimie, on pense que celui qui se met à la pratique du fourneau est quelqu'un qui est capable de se transformer lui-même, de devenir, entre guillemets, la pierre philosophale. Et on a un exemple extraordinaire, c'est de quelqu'un qui s'appelle Saint-Vincent de Paul. Je crois que ça, tout le monde a entendu parler de Saint-Vincent de Paul. Mais vous savez peut-être moins que Saint-Vincent de Paul, alors qu'il traversait la Méditerranée pour se rendre à Malte, avait été capturé par des pirates barbaresques. Et il a été donc, on l'a débarqué à Tunis, et là, il a été fait prisonnier chez un soufi. Lequel soufi a vu que Saint-Vincent de Paul était un saint homme. Et ils ont immédiatement sympathisé, et ils ont échangé des principes de philosophie et des principes d'alchimie. Et on a la correspondance de Saint-Vincent de Paul avec ce soufi, parce qu'ils ont continué à s'écrire. Donc on voit bien que Saint-Vincent de Paul parle beaucoup d'alchimie. Or, quand Saint-Vincent de Paul va rentrer, il va réussir à faire ce que jamais on a fait. Il va dépenser, pour secourir des provinces, des sommes qui aujourd'hui représenteraient peut-être, soyons sérieux, 40 milliards d'euros. Voilà un peu le niveau d'argent d'un seul coup qui sort de Saint-Vincent de Paul. Il va construire partout des établissements pour les enfants malades, pour les aveugles, pour les filles qui sont en difficulté, pour les orphelins. Il va en couvrir la France. Et aujourd'hui, la congrégation Saint-Vincent de Paul, eh bien, elle est l'héritière de cet homme extraordinaire. Alors, est-ce que Saint-Vincent de Paul, vous pensez réellement qu'il était dans son laboratoire en train de touiller et puis de faire de l'or? Eh bien, pas du tout. Ce qu'il a trouvé, Saint-Vincent de Paul, à la suite de ses discussions philosophiques sur l'alchimie spirituelle, c'était que l'homme était capable de faire des choses extraordinaires pourvu qu'il en ait la conviction et qu'il en ait la force. Et ce qu'a fait Saint-Vincent de Paul, il est parti tout simplement trouver tous les puissants du royaume et il les a interpellés directement en disant « Mais ça ne vous gêne pas, vous qui croulez sous l'argent, sous les privilèges, vous qui dépensez des sommes extraordinaires, de voir qu'autour de vous, il y a tant de misère. » Et il va leur arracher l'argent. Et l'argent de Saint-Vincent de Paul, c'est l'argent des riches, tout simplement. Donc il n'y a pas d'alchimie là-dedans. Seulement Saint-Vincent de Paul dira toujours, et on le trouve dans sa correspondance, qu'il a pratiqué l'alchimie. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il avait su éliminer lui-même comme une matière première ses propres scories, et en quelque sorte devenir authentiquement un saint homme et un homme saint, c'est-à-dire capable de faire des choses étonnantes. Et on a toute une branche de l'alchimie qui s'est développée dans ce sens d'ailleurs, et qu'on retrouve déjà au XIIe et XIIIe siècle dans les cathédrales de France. Et si nos cathédrales sont pleines de ces symboles alchimiques, ce n'est pas pour nous indiquer comment transformer de la rhubarbe en casserole d'aluminium ou des plaisanteries comme ça. C'est pour nous indiquer quelles sont les voies spirituelles qui peuvent amener l'homme à devenir meilleur, et non seulement à devenir meilleur, mais à se surpasser lui-même et à entreprendre des choses extraordinaires, y compris d'aller chercher de l'or là où on pensait qu'il n'y en a pas. Et nos cathédrales en sont pleines, pleines, pleines. Et ce langage, il est tout à fait extraordinaire, parce que c'est lui qui va inspirer Fulcanelli, c'est-à-dire Dujol, c'est-à-dire en fait nommé le sieur Gobineau de Montluçon, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà un petit peu, je dirais, grosso modo, la mythologie alchimique. Alors, quant au nombre des auteurs, j'ai dit qu'il était tout à fait extraordinaire. Et souvent, ils se sont copiés les uns les autres. Il y a cependant, il reste quand même cependant d'extrêmes grands mystères. Et ces grands mystères, je vais vous en donner quelques-uns. Il y a un manuscrit, tout à fait épatant d'ailleurs, dont on a fait un reprint, qui s'appelle le manuscrit de Voynich. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nommé Voynich. Alors Voynich, c'est un Tchèque qui fait fortune aux États-Unis et qui en 1917 se rend à Rome. Et comme il a gagné beaucoup d'argent, eh bien il fait le tour des établissements religieux pour y rechercher des vieux manuscrits. C'est un bibliophile. Et figurez-vous qu'il va trouver dans un couvent de jésuites, il va trouver un livre qui est un manuscrit complètement incompréhensible. Il le ramène aux États-Unis, il l'achète pour relativement peu d'argent, il le ramène aux États-Unis et cherche à le faire traduire. Et là, personne n'est capable de traduire le bouquin. Personne. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce bouquin, qui est la propriété de l'université américaine, il a été mis en ligne, il y a à peu près avec Internet, il y a une quinzaine d'années, avec une demande pressante. Toute personne capable de traduire quelques éléments de ce livre sera la bienvenue. On écoute. Naturellement, on n'a toujours pas traduit le manuscrit de Voynich. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est d'où il vient. Et quand on sait d'où il vient, alors là, vous allez voir que c'est tout à fait étonnant. Il y avait une femme qui s'appelait Christine de Suède. Et Christine de Suède, son papa était passionné d'alchimie. Elle aussi était passionnée d'alchimie, mais elle était protestante. Elle se convertit au catholicisme. Elle en profite pour aller faire un tour à Prague et pour aller piller les collections de Rodolphe II. Elle déclare la guerre à Rodolphe II, à Prague. Et Prague, c'est ce qu'on a appelé l'empereur d'Allemagne, l'Hermès d'Allemagne. Il était piqué d'alchimie à un point, il avait des collections extraordinaires. Elle va là-bas et elle fait main basse sur ses collections. Et ses collections, elle se les partage avec son appui, le cardinal Odescalchi, qui deviendra pape. Et Odescalchi, eh bien, il va récupérer une partie de la bibliothèque de Rodolphe II. Et dans le tas, il y a le fameux manuscrit de Voynich. Et c'est comme ça qu'il est passé de la bibliothèque vaticane, qui un jour a fait le tri, en disant « qu'est-ce que je fasse d'un bouquin illisible ?» Donc elle le transmet à un couvent de jésuites. Vous les jésuites, puisque vous êtes malins, trouvez-moi ça, et qu'elle mette ça dans un coin, etc. Et on sait aujourd'hui, on pense savoir qui a écrit ce livre. Et il est entièrement codé. Et on n'a toujours pas trouvé la clé. Il s'agirait tout simplement, alors là, j'ai un trou terrible, il s'agit de Roger Bacon. Roger Bacon, moine franciscain. Et vous savez que Roger Bacon, lui, il n'a pas écrit ça au 14e siècle. Roger Bacon, c'est quelqu'un qui vit au 13e. Or, ce qui est curieux dans ce manuscrit de Voynich, c'est qu'on a dedans des choses qui n'étaient pas connues du temps de Bacon, qui n'étaient encore moins connues du temps de Rodolphe II ou de Christine de Suède, qu'on ne découvrira qu'à la fin du 19e siècle, avec des lunettes astronomiques assez puissantes, on a le dessin de constellations qui ne sont accessibles que par des lunettes astronomiques puissantes. On a également, on le découvrira après, on a des coupes histologiques, c'est-à-dire on a des tissus qui ont été préparés, coupés en anatomie, et puis examinés au microscope. Le microscope ne sera pas inventé... Il sera inventé qu'à peu près 3 à 4 siècles après par Huygens. Donc on a quelque chose d'étonnant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que le nommé Bacon avait peut-être été capable de faire un microscope, un télescope. Où a-t-il puisé ses secrets? On a des réponses qui sont des réponses possibles. Soit, je veux dire, dans sa grande puissance intellectuelle, capable d'imaginer des choses, enfin bref. Là, on voit bien que vis-à-vis de l'alchimie, on a quelquefois des trucs tout à fait étonnants. On a également eu relations de transmutation alchimique qui ont été faites devant témoins, et quelquefois des témoins qui n'étaient pas des moindres. Alors, on a toujours prétendu aussi qu'il y avait eu des manipulations, que les gens avaient substitué au dernier moment un lingot d'or par un lingot de plomb. On a des gens comme Louis XV qui se sont intéressés à l'alchimie. Louis XV avait demandé à le comte de Saint-Germain, au comte de Saint-Germain, de lui créer un laboratoire des couleurs et des teintures. Et il y a actuellement, on peut encore aller voir au Trianon, on peut encore aller voir le laboratoire des couleurs et des teintures qui avait été créé par Louis XV, c'est-à-dire en fait par Saint-Germain. Est-ce que Saint-Germain avait découvert l'or? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que Saint-Germain, à côté, faisait des teintures. C'est-à-dire, il avait une grosse activité de teinturier et il vendait des vases tinctoriales. Est-ce qu'il en tirait son argent? Donc, tous les puissants se sont intéressés à la Chine. On a une histoire épatante, si je puis dire, c'est qu'on a les mémoires du gouverneur de la Bastille. Du dernier gouverneur de la Bastille, et dans les derniers embastillés, on avait un alchimiste. Alors on l'avait embastillé, soi-disant parce qu'il avait roulé le roi. En fait, il n'a roulé personne. Est-ce qu'on l'a embastillé parce qu'on avait peur que d'un seul coup il se mette à faire de la monnaie ? Et il y a des rapports entre l'alchimie, le pouvoir, et les finances et la monnaie qui sont extraordinaires. Chacun se méfiait de l'autre. Est-ce qu'ils sont capables vraiment de faire de l'or et de foutre en l'air ma monnaie ? On a des histoires comme ça. Alors, apparemment, moi je pense que si c'était possible, depuis le temps, il y a longtemps que ça se serait fait et que ça se saurait. Donc si on ne le sait pas, bien, c'est qu'il y a une part de mystère. Et que ce mystère, il est plus dans la tête et l'esprit des auteurs, ou je dirais de la collectivité ou des hommes, quant à leurs propres origines, quant à nos propres capacités à appréhender le monde, quant à notre capacité à regarder. À mon sens, c'est là que se trouvent les véritables mystères de la Chine. C'est-à-dire la capacité de réunir des choses apparemment opposées, étranges, et d'en faire quelque chose de solide. C'est pas si difficile que ça, a priori. Je voudrais vous donner un petit exemple sur cette capacité de réunir des choses opposées. Vous savez, quand on a des personnes qui discutent entre elles, on dit, oh là là, elles ont des opinions radicalement opposées, diamétralement opposées, certes, mais diamétralement opposées, ça veut dire que ce sont des opinions qui sont toutes les deux sur le même cercle. Et que si j'avais cherché une opinion qui est un petit peu différente, un tout petit peu différente, j'aurais fini peut-être par rencontrer une communauté d'idées. La communauté d'idées, elle est plutôt au centre du cercle. Bien, je dirais que l'alchimie, c'est un peu ça. C'est une communauté d'idées, c'est une communauté de visions, alors soit physique, soit matérielle, soit spirituelle, soit les deux à la fois, soit médicale, mais avec toujours une même perspective, celle du bonheur du genre humain. Parce qu'il y a une constante, dans tous les ouvrages dont je vous ai parlé, je pourrais vous en parler, il y a une constante extraordinaire, c'est que tous ces ouvrages, sans exception, commence par rendre grâce à Dieu avant leur première ligne. Donc on voit bien qu'il y a un côté spirituel qui est tout à fait étonnant. Il n'y en a pas un qui va commencer en disant « Vous prenez ici de la teinture de machin et vous la mélangez. » Non, 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 non. Ils commencent tous par dire qu'ils rendent grâce à Dieu, qu'ils se placent sous son autorité et que seuls les véritables initiés auront révélation des mystères. Et ils nous disent dans leur livre « Vous pourrez toujours les lire, vous ne les comprendrez jamais si vous n'avez pas été initié au mystère. » Et c'est peut-être ça une des grandes difficultés de l'alchimie, c'est de s'imaginer qu'il y a des recettes dedans et qu'elles sont accessibles à quelqu'un qui ne serait pas initié à ces mystères. Mais quels sont ces mystères ? Bien, je crois que là, à nouveau, ce sont tout simplement les mystères de l'esprit humain, les mystères de nos origines, les mystères de notre capacité à comprendre le monde, les mystères de notre tradition, la possibilité de voir les choses différemment. Vous m'excuserez du terme de ne pas regarder le monde avec un regard profane. Celui qui ouvre un livre d'alchimie avec un regard profane, dans l'idée de se dire « il y a une recette comme une recette de cuisine », je vous garantis qu'il ne trouvera rien. Mais celui qui va l'ouvrir avec l'esprit d'un curieux, en disant « il y a peut-être quelques vérités, et puis si je regardais les choses autrement, peut-être que cet auteur, quand il me parle de pierre, de matière première, il veut peut-être me dire autre chose. » Et c'est si vrai, l'exemple, le mot « matière première ». Pour beaucoup, la matière première, c'est ce qui va permettre de faire la chimie, on va partir d'une matière minérale. Si on regarde toutes les définitions, et c'est une constante de la chimie, elle nous dit « cette matière première, elle est infâme, de vil prix. Tout le monde passe à côté, c'est la chose la plus méprisée et c'est pourtant la plus commune. » Je vous laisse imaginer ce que des gens ont cherché. Ils se sont dit, ah oui, oui, c'est forcément des matières fécales. Non, 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 d'autres, c'est de l'urine. On a même des types qui se sont nourris d'urine en pensant que... Non, non, la définition, c'est tout simplement l'homme lui-même. C'est la chose la plus méprisable. C'est la chose la plus commune. C'est la chose la plus connue de tous. Mais c'est la chose la plus difficile à connaître parce que se connaître soi-même, c'est une vraie difficulté. Donc, on a toujours ce même discours. Et ce discours de dire, je rends grâce à Dieu. Et ensuite, quand l'ouvrage est terminé, ils disent ben, « j'espère que tu as compris, et si tu n'as pas compris, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est à étudier, lire et prier. » Et il y a un livre d'alchimie qui est assez intéressant, parce que c'est un livre qui n'est formé que de dessins. Et ce livre s'appelle « Le Mutus Liber ». Donc il est paru à La Rochelle à peu près en 1700 et quelques, et il n'y a que des dessins. Et ces dessins sont des dessins relativement incompréhensibles. On y voit quelque part l'échelle de Jacob, on y voit des gens avec des trompettes, on voit d'un côté un taureau, de l'autre côté on voit un agneau, et puis à des entrelacs de roses tout autour. La traduction n'est pas une traduction, je veux dire, de chimiste. C'est une traduction qui est dans la droite ligne de la tradition, je veux dire initiatique. Si on se met d'un côté avec le bœuf et d'autre côté avec un agneau, c'est pour rappeler que ce sont deux images du Christ. Et non pas parce qu'on est au mois de mai, parce que ce sont deux images du Christ. Parce que le bœuf sera d'ailleurs repris comme symbole par Luc, c'est celui qui avance d'un pas puissant, qui est capable de tirer l'église. Quant à l'agneau, c'est l'agneau du sacrifice. Quant aux roses qui sont en entrelac, c'est tout simplement le symbole de l'initiation et de la précarité des choses, qu'on va mourir vite. Quant à l'échelle de Jacob, c'est quelque chose qui vous dit « Élevez-vous par vous-même et vous entendrez une trompette divine. » Voilà un petit peu le Mutus Liber. Et les seules lettres, les seules phrases qui sont dans ce Mutus Liber, qui fait à peu près une trentaine de pages, elles sont simples, c'est « Ora, léger, léger, ora. » C'est-à-dire « Prie, lis, lis et prie. » On voit bien là qu'on nous demande plus une attitude spirituelle qu'une attitude matérielle. Mais ça n'empêche que beaucoup d'alchimistes qui vont pratiquer au fourneau vont s'appuyer sur ces ouvrages pour penser être capables de faire de l'or. Et je crois qu'ils auront quelques difficultés. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous avez peut-être entendu parler d'un auteur qui s'appelle Barbeau, non ? Armand Barbeau, il avait écrit un livre qui s'appelait L'or du millième matin. Il est sorti dans les années à peu près 70. Alors, Armand Barbeau, c'est un Alsacien d'ailleurs, il avait vu dans le Mutus Liber cette figure où on voit un couple qui tord des draps. Alors ça, c'est curieux, ça, ils tordent des draps, ils sont zimprés et puis ils tordent des draps. Et il s'était dit, ça signifie qu'une des matières premières de l'alchimie, eh bien, c'est la rosée. C'est la rosée du matin. Donc je vais aller récupérer, je vais mettre des draps sur les prés, et puis je vais tordre les draps, je vais les mettre dans des bonbonnes, comme c'est écrit dans le Mutus Liber. Et puis j'obtiendrai le fameux dissolvant universel qui va me donner par la suite, pourquoi pas, la possibilité de faire la pierre philosophale et l'élixir de longue vie. Le pauvre Barbeau a passé 25 ans à peu près à remplir des bonbonnes et puis à tenter de faire des choses avec de la rosée du matin. C'était très poétique. Et il y avait des auteurs qui disaient « Oui, mais c'est normal parce que les rayons cosmiques sont tombés sur la rosée du matin et elle a une capacité à... » Non, vous savez, les rayons cosmiques, ils tombent aussi bien dans l'eau de la Moselle que dans la rosée du matin. Et j'ai dû aller rencontrer Armand Barbeau, parce qu'à l'époque, je faisais des émissions de télévision, mais ça, à l'époque, ça s'appelait l'ORTF, oui, un petit peu. Et on devait faire une émission sur l'alchimie, et je vais voir se nommer Barbeau, et j'y vais avec des gens qui s'appellent Igor Barrère, et puis Lalou. Et puis, il a voulu nous transformer devant nous le bureau en or. Montrant qu'évidemment il n'a pas transformé le bureau en or. Alors c'est mal tombé. Et ensuite ça m'a quand même donné une idée, parce que j'ai dit, eh bien, on peut mystifier des gens. Et j'ai mystifié une équipe complète de télévision, mais ça c'était avec un de mes professeurs de chimie. Donc il y avait une équipe de télé qui était là, qui attendait pour un tournage, et puis il leur dit, vous savez, mon collaborateur pour l'instant il tente de faire de l'or, j'espère que ça va aboutir. Alors lui, il était dans son bureau, vous voyez, un petit peu un bureau de professeur d'université. Et moi, j'arrive complètement hirsute. À l'époque, j'avais plein de cheveux, avec une vieille blouse en cerveau dépenaillé, et dans mes poches, des blocs très très lourds. Et je sors ces blocs et je les jette sur le bureau en disant « Maître, maître, j'ai réussi !» Et ça fait un bruit terrible. Bam ! Et c'était, croyez-moi, brillant comme de l'or et lourd comme de l'or. Et j'ai vraiment vu dans la tête des types qui étaient là, ils ont eu un moment d'égarement. Ils se sont dit, c'est pas possible. Et on leur a dit, non, là, on vient de vous avoir un petit peu, on vous a sorti des blocs de pyrite. La pyrite, c'est du sulfate, hein, c'est un sulfure de fer.
On appelle aussi l'or des fous.
Voilà, l'or des fous. Comme quoi, on peut mystifier les gens, on peut leur faire croire. Alors, des expériences comme ça, il y en a eu certainement plus d'une. Mais pour revenir, je dirais, aux choses, pour revenir à notre Armand Barbeau, il y a une chose qui lui avait échappé, c'est que la rosée dont on nous parlait, c'est un symbole constant des traditions ésotériques. Et ce symbole, ce n'est pas le symbole de la rosée réelle qui tombe du ciel, c'est le symbole de la puissance spirituelle. C'est ce qu'on appelle le flux célestis, le flot célestis. Et ça, dans beaucoup de cathédrales, dans beaucoup de gravures anciennes, dans beaucoup de gravures alchimiques, on le retrouve en permanence. Autrement dit, vous ne pouvez progresser que si vous recueillez la rosée. Mais évidemment, on a un ouvrage alchimie symbolique et allégorique. On laisse croire que c'est la rosée du matin. Ben, c'est pas la rosée du matin, c'est la rosée spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui descend. Voilà un petit peu. Est-ce que ça va, Carole? Est-ce que j'ai pas été trop long?
Mais écoute, je pense, je sais que tu peux continuer des heures et des heures. Mais je pense qu'il y a des questions, ça,
oui,
si, on si va l'intérêt
plutôt, oui,
d'avoir un
fait.
Peu de...
C'est pour ça que je vais m'arrêter, parce que là, on va être parti jusqu'à 2 heures du matin.
Mais surtout après, n'hésitez pas à prendre tes coordonnées aussi pour la suite, pour si vous avez des...
Est-ce que le fait de toujours commencer les ouvrages par invoquer la protection de Dieu, ça ne pouvait pas être aussi une façon de se protéger dans les contextes éventuels de chasse aux sorcières?
Alors, c'est une bonne question, et là où il faudrait aborder, je dirais, l'aspect des relations de l'alchimie et de l'Église. Eh bien, les relations de l'alchimie et de l'Église sont des relations extrêmement paisibles. Et d'ailleurs, Jean XXII, qui fut pape, on lui a prêté des ouvrages alchimiques. C'est-à-dire que l'Église, dès les premiers siècles, connaît cette tendance, je dirais, mystique et chrétienne de l'alchimie. Il ne faut pas se tromper. Donc elle ne peut pas dire « c'est pas bien ». La seule chose qu'elle dira, elle interdira aux moines, ça il y aura des bulles qui vont dire, elle leur interdira de tenter de fabriquer de l'or. Mais pas une seule fois, elle leur interdira d'écrire des ouvrages d'alchimie, et mieux, elle laissera installer sur nos cathédrales des symboles d'alchimie. Il ne faut pas s'imaginer que c'était des fantaisies d'artistes. Dans une cathédrale, quand vous faites une sculpture, quand vous faites un tympan, quand vous faites des bas-reliefs, ce n'est pas du tout parce que vous avez envie de le faire. C'est parce que quelqu'un a payé, il y a un commanditaire. Quant à la cathédrale d'Amiens, vous voyez... dans les quadrilobes du bas, ces fameux quatre feuilles, un alchimiste, il n'y a pas d'autre mot, c'est quelqu'un, il a un fourneau, il a un athanor, on ne voit que lui. Il nous fait en plus un petit signe de connivence, il a sur son épaule une coquille Saint-Jacques. Ce n'est pas une fantaisie d'artiste, c'est une commande d'un clerc, d'un homme d'église, et qui entend montrer qu'il est toujours possible, par la voie d'initiation, qui est celle de la coquille, par la voie de la purification, qui est celle du feu, eh bien, d'adresser un salut à l'humanité, qui est un salut, je dirais, d'espérance. Donc, dans ce sens-là, l'Église, non. Alors, on a pu, par contre, supposer que c'était plutôt pour se défaire de la défiance des puissants et des rois qui auraient vite fait de faire main basse sur tous les alchimistes pour dire « faites de l'or chez moi ». Et il y a eu des histoires terribles comme ça. On a eu l'histoire, notamment toujours le fameux Rodolphe II, qui a quand même fait mettre en prison l'inventeur de la porcelaine. Je ne vais pas vous raconter son histoire, mais enfin bon, il était convaincu ce type ferait de l'or. Voilà un gars qui a passé quand même 15 ans en forteresse, et si le gouverneur de la forteresse n'était pas passionné par les porcelaines chinoises, le pauvre homme n'aurait jamais inventé la porcelaine. Donc il y avait quand même par contre une méfiance. Il se méfiait beaucoup de tout ce qui était pouvoir royal ou des puissants. Par contre, de l'Église, il y a eu des rapports tumultueux, mais jamais l'Église n'a condamné la chimie en tant que telle. Elle a toujours condamné le fait de vouloir de faire de l'or, mais elle n'a jamais condamné la chimie. Voilà. Voilà.
Un épisode des rapports tumultueux, c'est Giordano Bruno, qui était alchimiste et qui avait le malheur d'être moine, sauf qu'il s'est défroqué après. Et en fait, il y a un moment où il revient, à la fin de sa vie, il revient à Venise, qui est pourtant une vie qui n'a jamais été très, très, très soumise à la papauté. Mais un noble vénitien, un Mocenigo d'ailleurs, l'a peut-être piégé ou a été effrayé, peut-être qu'il y a des opinions très...
Oui, Giordano Bruno,
c'est terrible. Et il s'est fait, et du coup, il a fini par se faire emmener à Rome.
Oui,
il va finir sur le bûcher. Mais c'était un alchimiste, en fait.
Oui, tout à fait.
Dans un contexte qui est très particulier, parce que c'est le contexte des débuts, du tout début de la contre-réforme. Donc il faut aussi voir qu'est ce contexte-là. C'est que l'Église, en fait, essaye de reprendre la main, de reprendre un minimum de contrôle des esprits, parce qu'à cause de la réforme.
Oui, alors c'est pareil quand on dit Giordano Bruno est un alchimiste, entendons-nous bien sur ce terme alchimiste. parce que ça, j'aurais peut-être dû vous en parler, ce mot alchimiste n'a ce sens qu'on lui prête que depuis le XXe siècle. Et on ne fait pas la distinction au XIVe, XVe et XVIe siècle entre chimie et alchimie. D'ailleurs, le mot n'existe encore pas. Et ce qu'on utilise comme mot, c'est l'art hermétique, l'art philosophe. Et les alchimistes, d'ailleurs, ne se disent pas alchimistes, ils disent « je suis philosophe ». Philosophe de nature, philosophe en. Et d'ailleurs, on appelle la pierre philosophale. Donc ils se parlent, ils sont médecins. Les sciences à l'époque ne sont pas séparées comme on le croit aujourd'hui. C'est que par la suite, dans le fond, avec l'apparition de la chimie moderne, qu'on va créer cette distinction entre l'alchimie et la chimie. La chimie, c'est ce qui ressort de la, du prouvable, de l'expérimental, et l'alchimie, c'est ce qui ressort d'avant. Mais donc, il est facile de dire ces gens-là étaient des alchimistes. Il faut voir le nombre de médecins dont on disait qu'ils étaient alchimistes, le nombre d'apothicaires dont on disait qu'ils étaient alchimistes. Donc, dans le cas de Giordano Bruno, on ne lui reproche pas tellement d'être un alchimiste. C'est plutôt qu'il a quand même des théories, je veux dire, philosophiques, qui gênent un peu la papauté.
Il prend la théorie de Copernic.
Voilà, et puis également, il s'inscrit dans la grande tradition de l'Académie florentine. Et il faut voir aussi que cette Académie florentine, elle n'est pas très bien vue par la popauté. C'est un vilain procès qu'on va faire à Giordano Bruno. Mais ça, c'est vrai.
J'ai une question. Donc, en fait, finalement, on considérait la chimie comme une sorte de proto-science, quoi. Puis ça pouvait recouvrir un peu la médecine, fabriquer des teintures, des choses qui ressemblent un peu à de l'or.
Je ne dirais pas que c'est une proto-science. La science y a puisé, mais dans l'esprit de ceux qui pratiquent, je dirais, cette science universelle, parce qu'ils l'appellent comme ça, il s'agit de tout autre chose. Pour eux, on ne peut pas séparer d'abord les disciplines. Tout est dans tout. Ils ont une vision, je dirais, totalement transdisciplinaire, notamment au XIIe et XIIIe, XIVe siècle, de l'univers. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour eux, rien n'est séparé. La puissance de Dieu se manifeste en tout et tout manifeste la puissance de Dieu. Donc ils ont une science, je dirais, qui est à la fois spirituelle et matérielle. Ça, aujourd'hui, c'est complètement insensé de se mettre ça dans la tête. Mais ils ont cette vision-là. On est à la fois chrétien, on est à la fois philosophe et on est à la fois un homme de la nature. Et quand on étudie la nature, on étudie la nature, œuvre divine, donc qui est également pleine de mystères, pleine de relations, pleine de choses comme ça. Alors ils n'ont pas une démarche scientifique. Et toute la difficulté sera justement d'arriver à une démarche scientifique à partir de cette démarche qui n'est tout sauf scientifique, qui est, je dirais, une démarche de tradition, de philosophie, de mythologie, avec un petit peu de science par-ci par-là. Les découvertes, dans le fond, sont accidentelles. Il faut réellement attendre. Il faut être sérieux, il faut réellement attendre Lavoisier pour qu'on commence à y voir clair. Mais plus étonnant, c'est que les plus grands chimistes, comme le nommait Berthelot, qui est sans doute une des gloires de la chimie française, eh bien, il était passionné de la chimie. Et c'est lui qui va nous livrer les plus anciens textes grecs, il va les traduire. Il a une espèce de fascination pour cette pensée médiévale et puis une pensée de la Renaissance qui a été perdue à la fin du XVIIIe siècle.
Et... Alors, quand tu dis qu'ils n'avaient pas de démarche scientifique, est-ce qu'il y avait une évolution? Est-ce qu'il y a une évolution des pratiques ou des connaissances? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était figé et qu'on refusait de faire évoluer?
Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais il se trouve que je vais donner l'exemple d'un alchimiste qui s'appelait Nicolas Meyer. Nicolas Meyer, non, ce n'est pas Nicolas Meyer. Enfin, c'est Meyer.
C'est un Alsacien.
C'est un Allemand. Et c'est le plus grand minéralogiste allemand qui n'ait jamais existé. Et Meyer, d'ailleurs, travaillera à côté de Rodolphe II. Meyer, c'est un alchimiste, mais c'est en même temps un minéralogiste. Et quand il aborde son domaine, son dada à lui, là, je dirais, il abandonne toute cette vision transversale, toutes ces visions mystiques, pour se consacrer, je dirais, à une... science descriptive. Et Meyer, c'est Georges Meyer. Et c'est lui qui va donc introduire le premier, je dirais, la minéralogie descriptive. Mais c'est un alchimiste. Il croit quand même qu'on peut faire de l'or. Un autre exemple extraordinaire, c'est Newton. Newton, membre de la Royal Society, l'inventeur, enfin pas l'inventeur, le découvreur de la gravitation universelle, bon, c'est quand même un type extraordinaire, c'est un alchimiste. Mais à son époque encore, on ne fait pas très bien la différence. Et Newton, quand il va exposer sa théorie sur donc, le monde, en avant-propos de son livre sur la gravitation universelle, va écrire « Il existe à côté de la gravitation de très grands secrets, de bien plus grands secrets, et seuls les grands maîtres sont à les connaître. » Voilà. Alors Newton était-il un initié ? On voit bien où on commence à cette époque-là à avoir une divergence. Mais Newton n'est dans le fond un rationnel que quand il s'intéresse à la gravitation, à la physique. Meyer n'est rationnel que quand il s'intéresse à la minéralogie. Paracelse ça devient rationnel quand il commence à s'intéresser à la préparation des premiers médicaments. Mais pour le reste, ils ont ces visions. Ils disent, voilà, je suis dans un tout petit domaine, je ne suis pas capable d'aller au-delà et voilà ce que je vois. C'est comme ça qu'on va entrer tout doucement. On va passer d'abord d'une science descriptive, parce que ce sont des descriptifs, ensuite à une science expérimentale. Mais la science expérimentale, il va falloir attendre pratiquement le 19e siècle hein, pour aborder. Réellement.
Que pour ces gens-là, l'approche alchimique leur a peut-être formé l'esprit pour trouver ensuite l'approche rationnelle.
Ah, mais c'est tout à fait vrai. Vous avez un autre exemple qui n'a rien à voir, c'est Louis Pasteur. Louis Pasteur prétendait que tout ce qu'il a découvert, il l'a dû à la prière. T'es un grand mystique, Pasteur, ça on n'en sait rien. Voilà. Donc il dit, non, moi, la science c'est bien, les fourneaux c'est bien, tout ça, les éprouvettes c'est bien. D'ailleurs, il a un médecin à côté de lui qui est le docteur Roux, il s'en occupe. Lui, il reste un grand philosophe, Pasteur. Et il y a quelqu'un encore de transversal, puisque c'est un chimiste qui devient médecin, et puis qui devient quelque part, qui prend des risques hein, pour soigner Joseph Steiner. Eh bien, on a quelqu'un qui, ça, d'abord, dit « Je trouverai les secrets du monde dans les prières et non pas par les expériences. » On a encore un exemple plus extraordinaire, c'est Einstein. Einstein qui, sans aucune machine, sans aucune technologie, avec un crayon, une feuille de papier, va jeter sur le papier la théorie la plus extraordinaire qui soit de nos jours, si ce n'est des courants avec Planck. On voit bien quand même que si on se lance trop dans le rationnel, l'expérimental et le descriptif, on va perdre, je dirais, nos possibilités intellectuelles. Moi, j'en suis absolument convaincu. Parce que c'est sans remettre à des tables de multiplication. Mais les tables de multiplication ne donnent pas les solutions, on les apprend bêtement. Or, l'imagination, ce qui la nourrit, c'est bien la découverte, c'est la transgression, c'est d'aller au-delà, c'est de croire que ce que tout le monde jugeait impossible devient possible. Et ce sont ces gens-là qui sont les vrais moteurs, je dirais, de l'intelligence et des progrès, parce qu'ils sont très transversaux. Aujourd'hui, on a une renaissance de l'art transdisciplinaire avec un philosophe des sciences qui s'appelle Jean Stone, si ça vous dit quelque chose. Il est président de l'université interdisciplinaire de Paris. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Il a réuni avec lui autour des prix Nobel, enfin. Et il a une vision tout à fait, je veux dire, étonnante du monde moderne. Il est capable d'aller chercher dans une vieille tradition et de vous faire un truc. Bref, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Je suis un peu bavard, m'excusez.
Une autre question. On trouve plein de symboles alchimiques dans les cathédrales. C'est en fait que cette pensée alchimique, elle est quand même diffusée parmi les plus clergés qu'on a.
Oui.
C'est quand même ce que je trouve un peu étonnant dans le lieu où l'alchimie, ça vient aussi des Arabes, si j'ai bien compris, et que a priori, pour ce que je sais du clergé de l'époque, c'est que je voyais comme très intolérant, comme très avec un esprit très.
C'est quoi la belle époque, sans entendre.
Je veux dire, comme. Adhérer à l'alchimie, ça suppose du coup au clergé de l'époque une certaine ouverture d'esprit.
Alors.
Qui me paraît être étonnante pour l'époque.
Alors, je vais vous raconter une chose parce que là encore, on est dans des idées reçues. Première idée reçue, c'est les Arabes qui ont inventé l'alchimie et qui l'ont transmise. Non, en fait, ce qui se passe, c'est on a la prise d'Alexandrie par les Arabes. Il y aura d'ailleurs deux prises d'Alexandrie. Il y a toutes les histoires relatives à l'incendie de la bibliothèque. Je ne veux pas entrer là-dedans parce que là, c'est des débats d'historiens. Toujours est-il qu'à partir de là, on va récupérer des manuscrits alexandrins et que c'est vrai qu'il y a des savants arabes qui vont, bah, évidemment, s'inspirer de ces manuscrits alexandrins. Qui sont d'ailleurs encore rédigés en vieux grec, et à l'époque, ils parlent le grec, hein, les Arabes. Ils savent encore parler le grec et puis le latin. Mais bien avant que les Arabes, je veux dire, rediffusent et redécouvrent une partie de cette littérature, il y en a déjà une grande partie qui est entrée tout simplement en Occident, et ça on n'en sait rien. Alors, ils sont pourtant entrés en Occident. Les premiers établissements monastiques, on avait déjà récupéré des bouquins, qui étaient des bouquins d'Origène, qui étaient de Philon d'Alexandrie, qui étaient de Marie la Juive, qui depuis dès le 3e et 4e siècle étaient déjà en Occident. Seulement, ils ne sont pas sortis des établissements monastiques. Ils y sont restés. Et on a eu des moines qui les ont copiés, recopiés, recopiés, recopiés. Mais on avait, je dirais, une élite qui, elle, connaissait la teneur de ces choses-là. Et ce qui est sidérant, c'est de voir, par exemple, dans les cathédrales, comment on est capable d'avoir un triple ou quadruple discours. Il y a le discours pour le peuple, hein, ça, une image toute simple, et puis il y a une image un peu plus, je dirais, élaborée, et puis il y aura une image, je dirais déjà pas plus élaborée, mais extrêmement savante. Et puis enfin, on arrive à la quatrième image, qui est l'image des révélations. Alors un exemple, c'est une prophétie, qu'est-ce que je peux vous donner ? Une prophétie d'Isaïe sur l'iniquité. On voit dans de nombreuses cathédrales un symbole, c'est une femme qui est dans un chaudron. Chaudron, tu penses tout de suite à la chimie. Et ce sont deux anges qui la tirent de là. Donc, c'est pas l'enfer, parce que c'est les anges qui la tirent de là. Ça, c'est l'illustration d'une prophétie d'Isaïe. Et Isaïe nous dit, « Et je vis l'iniquité, elle sortait d'un chaudron, et deux personnes la tirent. » Voilà. Donc, un, il faut d'abord connaître Isaïe. Qui connaît Isaïe dans les gens du peuple pour identifier la scène? La plupart des curés de campagne n'étaient pas venus de le savoir. La plupart des moines aussi. Par contre, le commanditaire qui leur a demandé le savait. Ça, donc, c'est la première image. Première image, elle est simple. C'est celle d'une prophétie d'Isaïe. Deuxième image qui est derrière, c'est la purification des gens. Purification. Vous ne pouvez accéder au monde saint, autrement dit aux anges, qu'à la condition de passer vous-même par votre propre enfer. On voit déjà qu'on est dans un autre discours. Et puis, il y a ensuite une troisième interprétation, qui est l'interprétation alchimique, qui est concomitante avec, elles ne sont pas... C'est de dire, vous êtes vous-même votre première, vous êtes vous-même la matière première, vous ne pouvez tirer de la quintessence de cette matière première qu'en la passant en fourneau, dans un chaudron. Et d'ailleurs, on va représenter quelque chose dont le chaudron est très très grand, mais vous n'êtes pas conduit aux enfers. Et tout ce système allégorique, en fait, il existe depuis Denis, depuis le pseudo-Denis, dit Denis l'Aéropagite, qui n'a jamais été le Denis d'Alexandre, qui n'était pas le Denis d'Athènes. Hein, je vais vous raconter l'histoire. Saint Paul arrive à Athènes. On va parler de Saint Denis. Saint Paul arrive à Athènes, et là, il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce temple-là? Alors les Athéniens, ils disent, oh là là, ben, on ne sait pas, c'est un temple au Dieu inconnu. Ah, ben ils disent, ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, c'était Jésus, c'était Christ. Ah, ben c'est bien qu'ils font les autres. Et là, soi-disant, ils rencontrent un philosophe, Denis, dont on fait d'ailleurs le premier évêque d'Athènes. La légende va s'en emparer, et c'est naturellement ce Denis légendaire qui arrive à Paris et qui est le premier évêque de Saint-Denis, évidemment. Ça fait déjà un deuxième Denis. Et puis, il y a un troisième Denis, qui s'appelle Denis d'Alexandrie. Et on l'appelle le pseudo-Aéropagite, le pseudo-Denis, et qui est un grand philosophe, et qui va écrire donc des livres extrêmement puissants sur la symbolique. Et les livres de Denis sont des livres qui exposent ce système-là. Et c'est un auteur chrétien, c'est un père de l'Église. Origène, bon, il est père de l'Église chez les orthodoxes, il n'est plus chez nous, mais enfin, peu importe. Donc, tous ce sont bien des pères de l'Église qui transmettent ces traditions. Et les moines les recopient et s'en servent et s'en servent. Et je vous dis, il faut attendre le 12e, 13e siècle pour que ça sorte. Mais quand ça sort, de toute façon, personne n'est capable de les comprendre. On voit bien que dans l'Église, je dirais, il y a un discours inconnu qui est un discours extrêmement spirituel, extrêmement ésotérique. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, et l'Église s'en défend. Et c'est ce qui permet à des bouquins comme le Da Vinci Code de faire une certaine fortune, c'est-à-dire qu'à partir de faits avérés, j'ose pas dire raconter un peu n'importe quoi, mais presque, c'est vrai qu'il y a encore des mystères au Vatican, il y a encore des mystères dans l'Église, mais ces mystères, ce sont les mystères de l'homme. Ce n'est pas au Vatican et ce n'est pas dans un symbole qu'on va les trouver. Pas si j'ai pu répondre à la question.
Il est déjà 19h.
Il est déjà 19h, c'est l'heure de l'apéro.
Alors, si vous avez peut-être encore d'autres questions, vous pouvez continuer à discuter. En tous les cas, Christian, moi, je te remercie parce que je pense qu'on a... Vous avez vu, je pense qu'il a encore beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'espère qu'on te verra les années prochaines et qu'on pourra continuer à discuter et que tu viendras... Je sais, malheureusement, tu dois repartir demain. Mais oui. Donc, les prochaines fois, j'espère qu'on t'aura un peu plus longtemps.
Je serai plus longtemps.
Tu viendras. Voilà. En tous les cas, merci. Et merci à tous. Mais c'est facile d'être modératrice avec toi, hein, parce que...
Non, faut modérer.
Oui, il suffit de regarder la montre. C'est tout. Non, oui.